Là aujourd'hui, il y a de tout. Des gens, beaucoup, beaucoup en fait, de gens qui arrivent et qui découvrent. C'est-à-dire que quand ils se baladaient, c'était balade nature. La nature, c'était avec un grand N et c'est tout. Tout était vert et ils prenaient pas le temps de regarder. Ils passent de ça à tout d'un coup à prendre les plantes et à dire waouh. Là, c'est une vraie découverte. Et des témoignages que j'ai, c'est que ces gens-là ensuite ne voient plus du tout la nature de la même manière. Ça a fait ça pour moi aussi, bien que moi j'avais déjà cette habitude depuis que je suis tout petit. Mais dès que j'apprends une nouvelle plante, je la vois partout après. Parce que j'ai appris à la connaître. C'est un peu comme beaucoup de choses, hein, quand on s'intéresse à un sujet, on voit les signes un peu partout.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Inspirez, écoutez, goûtez les feuilles dans la brise. La pluie frappait l'écorce, nos pieds dans le sable et cet acacia dont l'antilope se régale. Les noix de coco tombées, les manguiers aux branches lourdes, ils sont autour de nous et plus souvent qu'on ne le pense, à l'origine du goût. Les arbres, oui, des arbres pour se soigner, des arbres pour se nourrir, des arbres à préserver, à respecter, à cuisiner, c'est aussi les aimer. Bonjour Aurélie Valtin.
Bonjour Clémence.
Vous êtes l'auteur d'un bijou, je le dis d'emblée parce que c'est La cuisine des arbres, c'est un livre publié aux éditions Ulmer, c'est une balade épatante et gourmande. Vous êtes dans la vie diplomate, ambassadrice adjointe de l'Union européenne au Malawi et passionnée de plantes sauvages, comestibles, médicinales et aromathérapeute. La cuisine des arbres pour ouvrir nos yeux et découvrir que oui, eh bien les arbres se mangent, ça c'est sur la quatrième de couverture. Oui, oui, tout à fait, les arbres se mangent et qu'à bien y songer, en réalité, on mange souvent des arbres. J'aimerais, Aurélie, que vous nous emmeniez sous votre arbre, auprès de votre arbre comme chante Brassens. Racontez-nous de quel arbre s'agit-il, quelle saison, pourquoi celui-ci, quel est son parfum.
Je ne vais pas être très originale, je vous emmène sous mon tilleul. J'ai la chance d'avoir un grand tilleul devant ma maison de campagne. Un tilleul qui doit déjà avoir 80 ans et qui a une taille assez vénérable. Et ce tilleul, en fait, c'est un aéroport à insectes. Il vrombit du mois de juin au mois de juillet avec l'arrivée des fleurs de tilleul qui sentent si bon, qui parfument nos tisanes le soir quand on est un petit peu agité. Et ce tilleul, c'est vraiment la figure maternante. C'est vraiment l'ancrage du lieu où j'aime passer du temps à la campagne. Et c'est un arbre merveilleux, aussi bien culinaire que médicinal.
Alors c'est un arbre, on est d'accord. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'arbre, imaginons un pays, peut-être celui du Petit Prince, ou bien peut-être sur la banquise, quand on n'a pas vu d'arbre jamais dans sa vie, comment est-ce que vous décririez un arbre ?
On va suivre le Petit Prince. Eh bien, un arbre, c'est une entité qui se dresse vers le ciel et qui fait le pont entre la terre et le ciel. C'est une entité vénérable qui peut vivre des milliers d'années. On dit souvent que notre monde ici n'est pas un monde d'humains, c'est un monde d'arbres dans lesquels les humains viennent tout juste d'arriver. Et donc, ce qui définit un arbre, c'est ce côté droit. C'est en fait la lignine qui est une molécule qui se trouve dans les arbres, mais pas dans d'autres plantes qu'on appelle les plantes herbacées, comme les graminées par exemple, et qui donnent à ces arbres cette verticalité qui nous fascine et qui, d'une certaine manière, en fait, nous relie aux arbres. Nous aussi, nous avons quitté notre position à quatre pattes pour nous dresser vers le ciel. Donc, on a plus en commun avec les arbres qu'on imagine.
Et un arbre, c'est on agit autour d'un tronc, autour d'une structure fixe, avec des racines voilà. Dans le sol, un feuillage, pas de feuillage. Comment s'organise ? Parce que c'est tout un ensemble, en fait, d'éléments, un arbre.
Donc un arbre, c'est comme un iceberg, pour revenir à votre analogie avec la banquise. En fait, la partie souterraine d'un arbre est souvent bien plus grande que sa partie aérienne. Donc on va dire qu'un arbre est composé de trois grands continents. Le continent souterrain avec les racines, qui contient également des nombreux champignons. En fait, les arbres communiquent entre eux à travers un réseau, comme un web, un internet des arbres, qui est composé de micro-champignons. Ensuite, il y a le tronc. Et c'est intéressant parce que les troncs poussent de manière spirale. Quand vous regardez l'écorce d'un arbre, vous verrez que cette écorce ne monte pas droit, mais qu'en fait, elle monte en spirale. Et on ne sait pas, mais la sève qui pousse à l'intérieur, qui monte vers les branches, monte également en spirale à l'intérieur de l'arbre. Donc, l'arbre est spirale. Et ensuite, la troisième partie, ce sont les branches qui, elles, soutiennent des feuilles. Et les feuilles, c'est vraiment, c'est la bouche et le système digestif à la fois de l'arbre. Ils captent le soleil, ils captent la pluie. Et grâce à cette énergie du soleil, il va produire du sucre qui est la nourriture principale de l'arbre.
Déjà, on a cueilli presque cet arbre. Ce tronc, il est forcément grand ou il peut être petit, il peut être penché, il peut être... Est-ce qu'il y a plusieurs types, justement, d'espèces et d'essences d'arbres ?
Oui, en fait, ce qui caractérise un arbre, donc on a d'autres termes à part le mot arbre, on a arbrisseau, on a arbuste, et en fait, tout ça, c'est défini, mais l'arbre, lui, commence à partir de 7 mètres à sa taille adulte. Donc, tout ce qui fait 7 mètres ou plus va être considéré de manière botanique comme un arbre, même si, évidemment, il y a des arbres qui sont tout tordus, qui vont pousser par le vent, finalement, en direction de la plage, plutôt qu'en direction du soleil. Et donc, est-ce qu'on peut encore parler d'un arbre s'il est tout tordu, comme une vieille personne qui aura trop vécu? Donc, la verticalité est toute relative, en fait, dans les arbres, puisqu'ils s'adaptent aux aléas du climat et des vents et de la pluie et de la neige qu'il y a autour.
Aurélie Valta, vous qui avez beaucoup voyagé durant votre vie, est-ce qu'on peut dire que l'arbre est un ami universel ?
Absolument. L'arbre est vraiment un archétype. L'arbre est vraiment à la base. Hein. On pense à la Bible, à l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal. L'arbre cosmique également, dans les cultures premières. Cet arbre qu'on appelle l'axis mundi, l'axe du monde, et qui est vraiment, comme je disais, cette connexion entre le ciel et la terre qui nous relie, nous, humains, à des dimensions autres. Donc, c'est à la fois quelque chose qui nous ancre et en même temps quelque chose qui nous élève, l'arbre.
Je vous propose d'aller vous promener le long d'une haie d'arbrisseaux.
C'est ce que les gens mangeaient avant quand ils n'avaient pas d'asperges. T'as déjà goûté
les
pousses d'orange ?
Des pousses d'orange ?
Et c'est un goût de, en dehors de l'astringence qu'on a dans un premier temps. C'est logique en même temps. Ça vous dit quelque chose ?
On cherche, on cherche. Ludovic.
C'est logique, c'est le fruit, que ça, c'est l'arbre à...
Ah,
l'avance.
Mûr.
Ben voilà, ben, ça n'a pas un goût de mûr ?
Ouais,
c'est vrai. C'est génial, hein. C'est génial quand vous mangez en fait les pousses de ronces qui sont tout en contre comme ça. Ça a un goût de mûr. Nous, on s'en sert au restaurant. Et en fait, la haie, c'est rempli de vie.
Guillaume Foucault, le chef du restaurant Pertica dans le Perche, qui donc nous a fait goûter cette première haie. C'est ça qui est un peu fou dans les arbres, Aurélie Valta. C'est qu'on a l'impression qu'un arbre, c'est tout de suite très très important, majeur. On pense jamais d'abord à un arbre. Et puis en fait, quand on commence à se creuser un peu la tête, on les voit partout, les arbres.
Oui, en fait, les arbres sont nos amis inconnus. Ils veillent sur nous. Et dès qu'on lève la tête, en fait, on a à manger. Il suffit de tendre la main pour avoir des mangues, des cocos. Mais au-delà des fruits, presque tout se mange dans certains arbres. C'est ça qui est assez fascinant.
Et ça, c'est au long de l'histoire. En fait, les arbres nous ont d'abord nourris. Ils nous ont fourni une quantité incroyable, en fait, de richesses et de trésors qui nous ont permis à nous, les hommes, de vivre.
Oui, en fait, s'il n'y avait pas les arbres, on n'emmènerait pas l'arche. Déjà, on descend de l'arbre. Donc, il a été le berceau de l'humanité. Ensuite, il nous a servi à faire du feu, ce qui nous a permis d'évoluer. On peut aussi faire des habits, ce qu'on appelle le tapa dans les îles du Pacifique. Donc, on utilise la fibre de certaines écorces pour faire des pagnes. Bien sûr, c'est notre maison, nos maisons en bois, nos meubles. Donc, on se loge grâce aux arbres et puis on se nourrit grâce aux arbres. On pense que les glands de chêne ont été parmi les premières nourritures des êtres humains en Europe. Le noisetier aussi était très présent après la dernière glaciation et a vraiment servi de garde-manger pour les êtres humains dans les périodes de disette. Donc les arbres sont là depuis toujours. Et on a tendance à les oublier, mais ce sont nos amis dans l'ombre.
Ils nous soignent aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'arbres comme ça, qui sont à l'origine de médicaments que l'on utilise presque de manière quotidienne aujourd'hui ?
Oui, alors il y a le saule, par exemple, notamment le saule blanc, qui contient un acide qui est à la base de l'aspirine. Et le saule est un arbre dont on va utiliser l'écorce, dont on va utiliser les feuilles encore aujourd'hui, pour faire des tisanes qui vont faire baisser la fièvre. Donc, c'est vraiment intéressant quand on n'a pas d'aspirine sous la main, mais qu'on est à la campagne et qu'on a un saule, eh bien on a de l'aspirine naturelle.
Incroyable.
C'est juste un exemple. Le tilleul, dont on a parlé avant, est une grande plante pour apaiser, pour les problèmes digestifs. Il y a tellement de... Si vous me lancez là-dedans, on s'en sort plus. On ne parlera plus de nourriture.
Mais ça participe aussi, l'un vaut l'autre aussi. C'est la connaissance de l'arbre et donc de tout ce qu'on peut faire aussi avec l'arbre.
Il y a pour moi deux grandes dimensions. Il y a la dimension du goût des arbres, qui est particulière, dont on va parler. Et il y a la dimension thérapeutique, médicinale. Les bourgeons, par exemple, sont des concentrés d'oligo-éléments, de vitamines, de plein de choses. Et en fait, quand on mange un bourgeon, on mange un arbre, puisqu'il y a vraiment tout l'arbre concentré dans son bourgeon. Donc, c'est assez magique, en fait.
Et du coup, on peut le cuisiner, ce bourgeon, également?
Oui, on peut les cuisiner, mais les bourgeons, moi, je les conseillerais plutôt crus ou alors vraiment knaqués, comme ça, juste saisis dans la poêle pour faire ressortir un peu les saveurs. Mais il y a certains bourgeons qui sont très doux. Les bourgeons de tilleul, notamment, sont très doux, d'aubépine également.
Est-ce que la chatonnette de noisetier est un bourgeon?
Alors, la chatonnette, oui, c'est un bourgeon de fleurs, on va dire, d'une certaine manière. C'est déjà une inflorescence. Il y a déjà des fleurs qui contiennent du pollen. Il y a beaucoup de pollen dans les chatons de noisetier, ce qui peut provoquer des allergies, donc il faut faire attention. Et on va les cuisiner comme des orangettes, les faire tremper après les avoir fait rôtir légèrement ou pas, dans du chocolat. Et c'est pas seulement pour les abeilles, pour lesquelles c'est une des premières nourritures à la sortie de l'hiver, mais également pour nous, une des premières nourritures qui annonce le printemps.
La cuisine des arbres est en cela fascinant, votre livre, qu'en fait on apprend plein de choses. Déjà on commence par cueillir, par identifier les arbres également, et ensuite on a quelques 70 recettes où on va mêler et goûter les arbres. Et ça, c'est absolument fantastique. Les chatonnettes dont on vient de parler font partie de cela. Goûter les arbres, ça a été une évidence. Comment est-ce que vous êtes venu à goûter votre premier arbre?
En fait, c'est une curiosité en moi, presque malsaine, puisqu'elle peut être risquée, mais j'adore goûter. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes par le côté médicinal. Donc, j'allais cueillir des plantes sauvages pour faire des tisanes, pour faire des préparations. Et petit à petit, puisque je me disais, puisqu'on les prend en tisane, c'est qu'elles doivent être comestibles, je me suis dit, mais ça a quel goût quand c'est pas en tisane? Donc, j'ai commencé à goûter. Et c'est vraiment un cercle vertueux, puisque... quand j'ai goûté du tilleul, j'ai goûté de l'aubépine, j'ai goûté des aiguilles de pin. En fait, la nature entière est devenue un garde-manger immense et un espace d'expérimentation de goût incroyable. Donc, ça a été à la fois un retour à des traditions anciennes, où là, on consommait dans les campagnes au Moyen-Âge et plus récemment, on consommait et on consomme encore des produits d'arbres, notamment dans les pays germaniques. Et puis aussi une exploration sensuelle, en fait, et personnelle.
Et en même temps, comme vous le dites, on ouvre les yeux et là, on comprend et on renoue avec son passé aussi, avec des savoir-faire et des traditions ancestrales que dans bien des pays aujourd'hui, on a l'impression qu'on commence à les perdre. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça?
Oui, je pense qu'en fait, il y a une uniformisation de l'alimentation et un manque de localité. Je pense aussi que quand on se tourne vers ce qui pousse près de chez soi, on découvre des choses qu'on ne retrouve pas finalement dans les commerces, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de vendre, puisqu'on allait le cueillir chez soi ou chez les voisins. Et on retrouve des fruits oubliés aussi, comme les nèfles, par exemple, ou les cormes, qui étaient beaucoup plus communes il y a quelques centaines d'années, et qui ont des goûts oubliés également, et qui sont des goûts très intéressants, notamment le goût de tous ces fruits blais qu'on va consommer au début de l'hiver, qui apporte un petit goût vineux de transformation des sucres déjà dans une sorte de goût de pré-vin qui est tout à fait inhabituel et qu'on redécouvre avec plaisir.
Moi, comme j'habite en ville, je suis allée, je vais vous l'avouer, Aurélie Valta, à l'est de Paris, en balade avec quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il a préfacé votre livre. C'est Christophe de Audy. Il est botaniste et fondateur du Chemin de la Nature. C'est un organisme de formation sur la nature, de cueillette, de cuisine, de médecine, avec et par les plantes et les champignons, en sortant du métro, plongé dans le bois de Vincennes.
Ouais, ça s'est planté, c'est un noyer d'Amérique. Ça, c'est un chêne sessile, des noisetiers, voilà. 700 à 800 espèces de plantes, et plus de la moitié de ces espèces peuvent être utilisées. Donc ouais, c'est impressionnant. Même déjà au bois de Vincennes, on a de quoi faire pour des années d'apprentissage et ouais. De plaisir.
Cette plante, on la voit tout le temps.
Ouais, c'est un arbre. C'est le robinier faux acacia. Donc là, il est tout jeune. Donc on l'identifie facilement avec ses feuilles composées de plusieurs folioles ovales, arrondies, et ses épines à la base des feuilles. Et donc là, il est tout jeune, là c'est le même, un peu plus grand. C'est à partir du moment où cet arbre atteint la maturité sexuelle qu'il va commencer à faire des fleurs. Et ces fleurs sont délicieuses. tout ce qui va être fait avec le robinier faux acacia, c'est souvent appelé simplement acacia. Donc sirop d'acacia, beignet. On peut en faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on aime le parfum. On peut en mettre pour aromatiser tout ce qu'on aime en fait, hein, des boissons, des sauces, des vinaigrettes, des desserts, des panna cotta au robinier faux acacia et tout et tout. Par contre, la seule partie qui est utilisable, ce sont ces fleurs, et plutôt cuites.
Quand vous faites les balades, comment est-ce que l'arbre prend toute sa place ?
Ben déjà, les gens ont tendance à voir les arbres comme je sais pas, un autre règne, comme si les arbres n'étaient pas des végétaux. Alors que ce que je dis souvent en balade, quand je parle de plantes sauvages, ça inclut les arbres. Donc les arbres sont des plantes ligneuses qui font du bois. Et oui, c'est pas exactement la même approche, parce qu'en effet, il faut lever la tête, il faut avoir accès à des branches quand même de préférence pour pouvoir les identifier. Mais ce qui est génial avec les arbres, c'est qu'ils sont présents toute l'année, quoi. Toute l'année, on peut les observer, toute l'année, on peut les utiliser si on le souhaite, en phytothérapie notamment. L'avantage des arbres, c'est que ça permet de sortir toute l'année dehors et de voir, quoi qu'il arrive, quelque chose. Alors là, ici, c'est un marronnier. On appelle le marronnier blanc, parce qu'il fait des fleurs blanches. Il y a aussi le marronnier rouge qui a été planté, introduit récemment, parce que le marronnier blanc, il se fait un petit peu embêter par la mineuse du marronnier, un petit papillon. On peut utiliser qu'une seule de ses parties, c'est sa graine. Sa graine, c'est au mois de septembre, quand les marrons tombent, hein, à ne pas confondre avec les châtaignes, parce que crème de marron, marron glacé, tout ça, ça a porté à confusion. En fait, c'est une variété de châtaigne qui est appelée marron. Mais les marrons, ça ne se mange pas. Donc les marrons, les graines, on peut les utiliser, mais uniquement pour se soigner et c'est utilisé comme tonique veineux. Par rapport à la cueillette, hein, quand ce sont des graines qui tombent par terre, il n'y a pas de souci. Mais très souvent, dans les arbres, on utilise aussi les écorces. Moi, ce que je recommande vivement, d'autant plus parce qu'on n'a pas le droit de faire autrement, c'est de passer après les tempêtes, les élagages. Ouais, parce que ça tombe, hein, donc il faut bien sûr savoir identifier et être sûr que ce soit la branche du bon arbre, hein, qui est bien au sol. Prendre que ce dont on a besoin sur la plante aussi. Si on a besoin que des fleurs, on ne va pas déraciner la plante. On va prélever que ses fleurs. Si on a besoin que de feuilles, ben on va prélever, si possible, que quelques feuilles sur différents pieds. Comme ça, la plante, elle continue sa vie, elle va faire ses graines, elle va donc pouvoir se reproduire.
Autant vous dire, Aurélie Valta, que vous étiez un peu avec nous lors de cette balade au bois de Vincennes, qui est quand même à la sortie du métro. Ça vous évoque quoi quand vous entendez ça ?
Tout de suite, ça me met l'eau à la bouche. Et je pense aux petits beignets d'acacia ou au miel d'acacia, avec ce goût très très doux qui ne charme pas que les abeilles.
Dans votre livre, vous expliquez très clairement, hein, déjà, comment s'assurer qu'on cueille le bon arbre, la bonne feuille. Il y a des saisons aussi qui sont expliquées, pas seulement les saisons du calendrier, mais aussi les saisons des plantes, évidemment, avec un calendrier très très détaillé en fonction des bourgeons, des fleurs, des feuilles. Donc il est très très complet. C'est très important, c'est vraiment le prémisse du goût et le prémisse du respect fait à l'arbre, que cette cueillette et la manière dont on cueille.
Oui. Pour moi, c'est vraiment les règles de cueillette, c'est la base en fait, et c'est une école du respect, parce que on va cueillir en butinant, en imitant la nature, donc en allant chercher des feuilles sur plusieurs branches, en n'effeuillant pas entièrement une seule branche. Pareil pour les fleurs, on va aller chercher sur plusieurs arbres différents pour avoir une richesse en termes alimentaires plus grande. Et oui, on va vraiment passer en coup de vent en respectant la croissance de l'arbre, en respectant aussi le lieu. Si c'est un lieu qui ne vous appartient pas, il faudra vérifier que vous avez le droit de cueillir. Et en respectant les saisons. Donc, il faut savoir que les feuilles d'arbres sont beaucoup plus intéressantes au niveau culinaire quand elles sont très jeunes, très vertes, et ce qu'on appelle les jeunes pousses. Et là, évidemment, ça va être plutôt au printemps. Je vous déconseille de manger des feuilles de tilleul en fin d'été, parce qu'elles sont vraiment fibreuses et assez sèches. Donc, c'est important de respecter l'arbre lui-même quand on cueille, et de respecter la bonne saison pour avoir des aliments d'une grande qualité.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Nací en la playa de mar y bajo la sombra de un como mi madre fue una esquina.
El Payande de Lhasa sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde. El Payande, votre choix, Aurélie Valta, diplomate, passionnée de botanique, auteur de La cuisine des arbres aux éditions Ulmer. Car oui, les arbres se mangent et nous soignent. Pourquoi ce titre, Aurélie ?
J'aime beaucoup cette chanson de Lhasa parce que c'est une chanson sur la fatalité de l'esclavagisme. Donc c'est un chant traditionnel d'Amérique latine qui parle des esclaves en fait dans les grandes haciendas. Et la référence au Payande est intéressante parce que c'est vraiment un arbre assez commun. C'est un petit peu comme un tamarin, donc on voit bien les gousses de tamarin qu'on utilise en cuisine. Un arbre qui paye pas de mine, mais qui est vraiment présent et qui berce en fait cette chanson. Et ce qui m'intéresse, c'est ce côté très mélancolique de cette chanson et aussi ce côté mélancolique qu'on peut avoir d'un arbre. On peut vraiment se languir d'un arbre. Voilà, c'est cette association de la mélancolie et de l'arbre qui m'a touchée.
On a parlé de goût avec Christophe Dehaudy juste avant d'écouter Lhasa. Je vous propose juste, parce que je lui ai posé là quand même la question à Christophe Dehaudy, je lui ai dit, mais quel a été pour vous votre premier souvenir, premier choc gustatif ? Voilà sa réponse.
La plante, il faut en choisir une. Le tilleul, c'est pas des parfums incroyables, mais j'ai un coup de cœur pour cet arbre. Parce qu'on peut manger ses feuilles presque toute l'année, et ça, je trouve ça génial. Surtout le tilleul à petites feuilles, qui a des feuilles sucrées, douces, qui fondent dans la bouche. Ces fleurs parfumées que j'aime beaucoup. Et ces petites graines, peu de gens connaissent, mais on peut grignoter les graines à partir du mois d'août. Et ça a un petit goût d'amande. D'ailleurs, ça a la composition très proche de celle de l'amande. Et puis voilà, quand il y en a à profusion. Donc moi, je peux passer des balades entières. Parce que maintenant, j'ai le coup dedans, j'ai le truc. Et j'arrive à en manger des dizaines et des dizaines. Dans 5 minutes, quand une trentaine, quoi. C'est très sympa, le tilleul. Le tilleul et la berce commune.
Voilà pourquoi nous sourions au début de cette émission quand vous nous avez amené sous votre tilleul. Est-ce que c'est la saison d'ailleurs pour pouvoir cueillir et goûter ces petites baies de tilleul, si on peut les appeler ainsi ?
Alors ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans le sud ou en Méditerranée, oui, ces graines commencent à être formées. On pourra les cueillir, mais il faudra les faire sécher à ce moment-là parce que le goût qui se dégage quand ces petites graines sont sèches est très intéressant et presque proche du goût du pain. Mais comme dit Christophe, il faut dans l'idéal attendre le mois d'août. Mais on peut consommer les feuilles en ce moment.
Votre livre est un appel à goûter les arbres, c'est indéniable. Et il signe aussi, d'ailleurs, un rapport entre le goût et le pays. Parce qu'à y réfléchir deux minutes, je me suis dit, mais en fait, quand on pense cèdre, le symbole du Liban, c'est un cèdre. Et on mange beaucoup de pignons de pin. L'épistache, c'est l'Iran. Est-ce qu'on a comme ça des pays qui se goûtent de cette manière grâce aux arbres ?
C'est une bonne question, ça. Je pense que, oui, il y a le cocotier qui n'est pas techniquement un arbre, hein, malheureusement. Mais bon, dans l'imaginaire, le cocotier est associé aux arbres. Donc, oui, c'est les îles, typiquement. Pour moi, le goût du coco, c'est les îles. Donc, ça, c'est assez clair. Pour moi, l'Afrique, c'est associé aux manguiers pour plusieurs raisons. D'abord, par l'ombre incroyable que les manguiers font dans des zones souvent très arides et par cette chair extrêmement juteuse, cette générosité quand un manguier donne, c'est incroyable. Et on peut nourrir tout un village pendant des semaines et des semaines. Donc, oui, je pense qu'il y a certains arbres qui sont associés à des goûts qui signent des territoires, clairement.
Les arbres nous nourrissent, nous soignent et nous fournissent un toit, un refuge. Alors on en a parlé, on construisait des maisons en bois, mais c'est aussi un refuge dans la brousse, par exemple, pour les enfants pygmées notamment, mais aussi pour la faune, pour les abeilles, qui vont mettre leur ruche dans les arbres, pour également les larves, les vers de karité, qui vont se loger dans cet arbre qu'est le karité, qui vont nous fournir et à manger et de la crème pour se soigner. Comment est-ce que coopère la faune, les hommes avec ces arbres ?
Oui, ça va dépendre un petit peu de l'écosystème. Moi, j'habite au Malawi, qui est un pays d'Afrique australe. Et là-bas, il y a une relation assez étroite entre les animaux, les humains et les arbres. D'abord, comme je disais, par l'ombre. Donc ça, c'est vraiment très important, par le fait que ça donne du fourrage aussi aux bêtes. Et là où j'habite, il y a beaucoup de chèvres. Donc on sait que les chèvres n'ont pas peur des arbres, même les plus hauts, et vont aller chercher leur nourriture là où elles ont décidé qu'elles allaient aller chercher leur nourriture. Et ça permet de faire des haies qui vont protéger le bétail, Donc il y a une relation clairement qui s'instaure. Je trouve que le côté insecte n'est pas encore assez bien compris. Je pense que le fait d'avoir des plantes mellifères, d'avoir des fleurs qui attirent des insectes, qui vont ensuite aller dans les potagers, permettre aux légumes d'être pollinisés, c'est quelque chose qui se fait, mais auquel on ne pense pas. Et c'est quand les abeilles commencent à manquer, que les arbres sont coupés et que la déforestation s'installe, qu'on commence à se demander, mais pourquoi mon potager donne moins? Moi, je l'ai vu très clairement dans mon jardin, parce que j'avais un arbre mort qui abritait une grande ruche. Quand cet arbre est tombé et qu'il a fallu relocaliser la ruche, mon potager a moins bien donné. Pour moi, c'était vraiment très clair. La relation était évidente. Donc, c'est vraiment un écosystème à préserver, tout comme l'agropastoralisme, qui est un cycle. Hein, le fumier va alimenter les légumes, etc. Et les bêtes vont utiliser le fourrage. Donc, c'est un cycle. Les arbres font partie d'un cycle dans lequel on s'inscrit, nous, humains et bêtes.
Je vous propose d'écouter les cueilleurs de miel, les pygmées effets en République démocratique du Congo. Juste quelques secondes pour s'imprégner. Les pygmées effets, pas la peine d'aller bien loin hein, en réalité, pour se rendre compte de combien les arbres sont importants dans notre vie, dans notre écosystème également. Vous venez de le dire en racontant l'histoire de votre potager qui a périclité quand cet arbre est mort. On a beaucoup décorrélé justement cette incidence entre l'arbre et notre vie. Comment s'opère cette transmission? Comment est-ce qu'on raconte les arbres aux enfants des villes? Et comment est-ce qu'on raconte les arbres aux enfants des champs?
Moi, je suis une enfant des villes. J'habitais en Autriche quand j'étais en primaire et je me souviens que mes parents m'emmenaient dans le bois qui entoure Vienne tous les week-ends quasiment et je pestais, je faisais vraiment des pieds et des mains pour pas y aller. Et en fait, je crois que les enfants des villes ont un rapport de haine et d'amour avec la nature parce qu'on a à la fois énormément besoin de ce contact et en même temps, il y a tellement de choses plus intéressante pour un enfant en ville. Mais je pense que c'est vraiment vital, en fait, d'établir ce lien. Alors que dans les campagnes, j'ai souvent l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire ils sont omniprésents et en fait, finalement, on les connaît assez peu. Et de manière assez anecdotique, Christophe et moi-même, on est tous les deux des enfants des villes. Et alors, bien sûr, il y a des agriculteurs, des paysans qui s'intéressent aux plantes et qui connaissent. Mais d'une manière générale, les gens qui sont au contact direct, en fait, de cette nature, ont perdu les connaissances qui leur permettent de lire le paysage et de le manger aussi.
Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, de gens, de villages que vous avez pu rencontrer au Malawi, qui, quand on va au loin dans les zones rurales, on se rend compte que ce savoir-faire est préservé.
Oui, en fait, je pense que moins on va au supermarché et plus on connaît les arbres. Je ne sais pas si c'est mathématique, mais très clairement, quand on cherche, on trouve. Et donc, ces enfants-là, dans les villages, ces gens n'ont pas déconnecté, n'ont pas découplé non plus les vertus médicinales et les vertus culinaires. C'est-à-dire que ça forme un tout. Donc, le moringa, voilà, on va en faire une poudre, on va le mettre dans les gâteaux, et puis on va le mettre dans les thés médicinaux, ou on va le mettre dans les préparations, les onctions qu'on va se mettre quand on a des blessures. Et en fait, c'est pas découplé. C'est ça qui est intéressant. Ça forme un tout.
Comment vous faites goûter les arbres à des enfants? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut aussi les initier aux arbres et à leur richesse et à leur panel de goûts incroyables?
Alors moi, je triche, parce que j'ai des enfants très difficiles. Et donc, en fait, je vais préparer des desserts classiques, comme mon tiramisu au lilas, par exemple. Je vais faire des beignets ou je vais faire des omelettes, des quiches. Et je vais introduire subrepticement les aliments qui viennent des arbres. Et je le dirai pas. Je le dirai après. C'est malhonnête, hein, je sais. Et après, je vais évidemment leur faire goûter et leur montrer la différence aussi, cru, cuit, et puis aller vers ce qu'ils aiment, parce que c'est pas la peine de forcer des enfants à manger des choses qu'ils n'aiment pas. Mais en commençant par les fleurs, en général, on va attirer leur attention.
Tous ces arbres, on le voit depuis le début de cette émission, combien ils sont importants dans notre vie. C'est peu de dire qu'il faut aussi les protéger, les conserver en ces temps cruciaux de chamboulement climatique. Et c'est précisément ce à quoi s'emploie au Sénégal l'Agence nationale de reforestation. Aziz Delfoli est formateur en permaculture à Ziguinchor, en Casamance.
La place des arbres a toujours été importante, depuis même avant les religions. Les populations africaines étaient très animistes, et donc liées à tout ce qui est vivant. Et beaucoup de rituels jusqu'à aujourd'hui se font. Le fromager, le baobab sont des arbres qui ont vraiment une importance ici. C'est respecté. Le baobab reste un emblème fort du Sénégal. Les gens qui habitent à proximité de ces arbres ont encore la connaissance. C'est une connaissance qui a tendance à se perdre, on va dire. La génération de ceux qui ont 50 ans connaît vraiment l'utilité et les savoirs des plantes et des arbres. Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation environnementale encore à faire au niveau de la sensibilisation pour les enfants actuellement, pour qu'ils continuent à perpétuer, à se nourrir avec, à se soigner avec. C'est très important. En Wolof, il y a un proverbe qui est très important qui dit « Garap, Moïsounu Garap ». L'arbre est notre médicament. Et bizarrement, on voit que dans cette langue Wolof, le mot « Garap », arbre, veut aussi dire « médicament ». Donc c'est vraiment présent dans la culture. Dans la zone sahélienne qui est au-dessus de la Gambie jusqu'à la frontière de Mauritanie, on va retrouver le baobab, qui est un arbre très majestueux et très respecté ici, qui va permettre aux hommes de se nourrir, de se soigner. Le lalo, les feuilles qu'on fait sécher, qu'on utilise avec le couscous, le tiré avec le lalo, les graines grillées qui peuvent remplacer le café, le fruit, on l'appelle le pain de singe parce que les singes en raffolent également, comme les hommes. Et cette pulpe avec laquelle on fait des jus de fruits, qui est très riche en sels minéraux. Je peux citer d'autres arbres comme le nébédaï, le moringa olifera. Et il est arrivé de l'Inde il y a très longtemps et s'est répandu dans toute cette zone sahélienne. Alors l'avantage de cet arbre, on utilise les feuilles, les graines ont été longtemps utilisées pour purifier l'eau et débarrasser des bactéries. Puis les feuilles ont une teneur en vitamine A et vitamine C, en calcium très importante. Donc à l'époque, les gens qui s'intéressaient à la nutrition, qui connaissaient la spiruline qui venait du Tchad, se sont mis beaucoup actuellement, on a la mode même en Europe, de cette poudre de feuilles de moringa. Mais on peut également consommer les feuilles qui vont avoir un rôle sur la glycémie, sur la tension, qui vont soigner beaucoup de maladies. Donc les gens connaissent également cet arbre-là, le nébédaï.
Le nébédaï. Vous avez parlé également du cad et du néré.
Le cad est un arbre également ancestral qu'on va retrouver dans toute cette zone sahélienne. C'est un arbre qui est épineux, qui contient dans ses feuilles un taux d'azote très très important. Donc on fait des engrais liquides avec le cad. On utilise ses épines également pour protéger. Et comme le néré ou le néthé, Parkia biglobola, on dit l'arbre à farine. Alors son nom néré vient du Mali, des Bambara. Mais le néré, c'est un arbre nourricier qui est plein de protides, de lipides, de glucides, qui contient beaucoup d'iode également et des acides animés. Ici, on dit le nététou au Sénégal. Ces graines, on les fait tremper en fait et fermenter. On l'utilise dans le soupe kandia, qui est un plat à base de gombo. Les cendres de feuilles pour les brûlures, l'écorce bouillie pour atténuer la glycémie. Bon, il y a plein de médicaments, évidemment, avec tous ces arbres. Et toujours, Garap Moïsounu Garap, c'est notre médicament, parce qu'un même arbre peut soigner plusieurs maladies à partir des feuilles, de l'écorce ou des racines.
Vous travaillez pour un conservatoire. Quel est le but?
Quand on parle de déforestation aujourd'hui, où on voit notre pays qui perd 40 000 hectares de forêt, il faut d'abord conserver, préserver ces espèces endémiques qui peuvent être en disparition, et pour permettre de faire une certaine éducation environnementale et une sensibilisation pour les enfants. Et ça, c'est vraiment indispensable pour le monde du futur. Peut-être c'est pas partout, sur tous les continents, mais je sais qu'en Europe, les enfants ont tendance à perdre ces connaissances et ce savoir qui est quand même un savoir ancestral et qui ne doit pas se perdre et qui doit se perpétuer. C'est de comprendre l'importance de ces arbres-là. Et moi, mon plus grand souhait pour l'avenir, c'est qu'un jour, on puisse vraiment instaurer une journée de plantation mondiale d'un arbre.
Une journée de plantation mondiale d'un arbre, Aurélie Valta. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce projet.
Oui, je vote pour.
Alors non seulement on vote pour, mais je crois qu'on va faire un grand appel pour que tous les auditeurs de RFI plantent un arbre et nous envoient une photo de leur arbre planté. Je voudrais préciser que Aziz travaille avec l'agence de reforestation de la Grande Muraille Verte, avec le projet Touloukeur. Des forêts nourricières sont plantées un peu partout au Sénégal, des zones d'un demi-hectare qui permettent aux populations locales d'avoir une approche de la permaculture et des aromates, des plantes, et de vivre ensemble et de travailler la terre. L'interview d'Aziz en longueur, vous pouvez la retrouver sur la page web du Goût du Monde, ainsi que la balade avec Christophe Dehaudy, qui a un site, évidemment, lechemindelanature.com, pour avoir toutes les informations et les formations sur les plantes et les arbres. Le baobab et Madagascar, je crois que vous avez une jolie histoire à ce sujet.
Oui, c'est pas pour rien que les baobabs trônent souvent au centre des villages africains. Et la raison, au-delà de tous les bienfaits qu'apporte l'arbre, c'est que le baobab est un aimant à eau. Et donc, là où il y a un baobab, il y a de l'eau sous terre. Le bois du baobab est très tendre, donc c'est un bois qui est nul au niveau, on va dire, de la construction. Mais par contre, au sud-est de Madagascar, il y a un village entier, en fait, où chaque famille a son baobab. Et en fait, c'est une région dans laquelle, pendant 6 mois, il fait extrêmement sec, donc il n'y a pas du tout d'eau. Et en fait, le baobab va servir de réserve d'eau pour chaque famille. Et donc, ils vont avoir le soin de ce baobab. Et vraiment, ce baobab, c'est la vie pour eux, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Il y a une relation très symbiotique symbiotique, en fait, qui va s'établir entre ce baobab et chaque famille. Et ça, je trouve ça très beau, de se dire que, voilà, on a chacun notre baobab, quelque part, qui nous donne la vie. Et finalement, chaque arbre, en fait, nous donne la vie, puisque sans arbre, on ne pourrait pas respirer.
Amoureux du naturel, veux vivre loin du métal, rêve d'une vie au goût de miel, en quête du monde idéal. Amoureux du naturel, veux vivre loin du métal, rêve d'une vie au goût de miel, en quête du monde idéal. Hey, hey. Ils sont venus en beau matin, cette bande de pillards, sur leur monture de fer, des bulldozers, enfoncer leur cri macabre dans le cœur de la terre. On entendait tomber les arbres comme des grondements de tonnerre. Ils ont arrasé les racines de la vie. Depuis, les animaux ont fui pour trouver un abri. C'est alors que les pluies sont devenues acides et les nuages se sont assombris. Ce n'est pas un duel équitable entre la machine et le petit homme. Ma vie d'indigène n'est qu'un grain de sable en somme.
Amoureux du naturel, ADN de Dara Djee sur RFI, choix de Thomas du Conservatoire Botanique du Sénégal, dont le chanteur est un soutien d'ailleurs. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde avec une amoureuse du naturel, on est d'accord, qui aime tant les arbres, elle les plante, elle les cuisine, elle les admire, elle s'en inspire et elle nous aide à faire pareil. C'est Aurélie Valta avec son livre, donc La cuisine des arbres, qui est un vrai trésor. Je le répète, j'arrête pas de dire trésor parce que je trouve pas d'autres mots, parce que c'est vraiment, on a plein de guides, d'aides, et quand on lit son livre, qui ne me quitte pas depuis quelques semaines. On n'a qu'une envie, c'est d'aller dans la forêt, d'aller regarder autour de soi et de se mettre en cuisine pour goûter les arbres. Vous avez également un blog, Aurélie, qui s'appelle Aromatips. Et je voudrais savoir quels sont les échos que vous avez eus depuis la publication de ce livre.
Il y a ceux qui sont déjà vendus, entre guillemets, et qui goûtent déjà les plantes sauvages et qui me disent « Ah ben, c'est génial parce que je pensais pas aux arbres ». Et en fait, ça m'ouvre un nouveau champ de découverte culinaire. Il y a les gens qui commencent de tout en bas, qui goûtaient pas les plantes sauvages et qui, en fait, vont basculer du côté sauvage à travers des recettes connues, mais dans lesquelles je vais incorporer des produits d'arbres un peu plus originaux. Et puis, il y a les gens qui, comme moi, pour qui le côté culinaire est une excuse pour aller cueillir, pour aller dans la nature, finalement pour apprendre à aimer les arbres. Et en fait, je pense que ça, c'est la plus belle réussite. C'est-à-dire que si cet arbre vous donne envie de sortir, d'aller dans la nature, même si vous cuisinez pas par après, pour moi, c'est déjà une réussite.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. C'est un acte écologique de manger les arbres. Ça peut étonner.
Oui, non, moi je vois vraiment ça comme un acte militant à plusieurs titres. D'abord parce que reconnaître la nature qu'il y a autour de nous, c'est une manière de l'aimer et de la protéger. C'est ce que disait Cousteau, quand on connaît mieux quelque chose, on l'aime, et quand on l'aime, on veut le protéger. Donc, si on peut citer les noms des arbres autour de chez soi, quand on connaît les arbres, ben, on a envie de les protéger. Et l'autre aspect militant, c'est que c'est de la nourriture gratuite. En fait, un arbre, par rapport à des plantes potagères, va donner beaucoup plus. Donc, en termes économiques, il est beaucoup plus intéressant de planter 3 arbres que d'alimenter un potager avec des efforts plus ou moins importants toute l'année. Donc, il y a cet aspect économique qui n'est pas négligeable, et puis l'aspect médicinal, parce que beaucoup d'arbres ont des propriétés médicinales. Donc, au final, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a donné en plantant quelques arbres.
Vous diriez que c'est une introduction aux arbres, votre livre ?
C'est un petit livre qu'on peut emmener en balade. Ça n'a pas pour but d'être une encyclopédie des arbres comestibles.
C'est très, très détaillé. Donc, c'est en suivant et les photos et les schémas, on peut donc aller s'aventurer dans la nature qui nous environne et commencer. Il faut de toute façon être à 150% sûr que c'est la bonne espèce que l'on est en train de cueillir et qu'on va cuisiner. On est d'accord ?
Oui. C'est vraiment très important. C'est une des règles de cueillette dont je parle. Et ce qui est bien, c'est d'aller découvrir ces arbres à différentes saisons. Comme on peut cueillir les produits d'arbres à différentes saisons, c'est bien aussi de pouvoir les reconnaître à différentes saisons. Et ça, c'est peut-être une des seules difficultés par rapport aux plantes herbacées qui poussent plus près du sol. C'est ça, c'est en hiver, reconnaître un arbre, ben, c'est pas facile.
Oui, c'est pas facile. Des petites baies, des feuilles, il faut être très attentif aux détails.
Voilà. Surtout l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de baies, notamment rouges, dont se régalent les oiseaux. Hein. Le rouge est une des couleurs qui... Mais il y a des baies qui sont comestibles et puis il y en a qui ne le sont pas.
On a aussi des révélations, je pense notamment au sumac dont on parle beaucoup. C'est vraiment une plante du bassin méditerranéen. Qu'on retrouve beaucoup au Proche et au Moyen-Orient et qu'on appelle le poisonnier souvent en France en tout cas parce que ce sont des grappes rouges qui ont l'air un peu menaçantes alors que c'est tout à fait ça qu'on peut cueillir pour s'en faire des vinaigres, des choses absolument incroyables.
Oui, alors c'est étonnant parce que cette réputation sulfureuse, elle existe aussi en Amérique du Nord, donc le sumac vinaigrier, hein, comme on l'appelle, ou de Virginie, est très populaire sur la côte est de l'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et en fait, on confond avec le sumac vénéneux, qui est une autre espèce, qui elle est très vénéneuse, mais qui ne ressemble pas du tout au sumac vinaigrier, puisqu'elle a des fleurs blanches et non pas des grappes rouges ou bordeaux. Donc là, c'est très difficile de confondre. Mais je trouve ça assez fascinant qu'un même arbre puisse avoir créé des traditions culinaires différentes dans le nord de l'Amérique et sur le bassin méditerranéen au Proche-Orient. C'est le za'atar avec le sumac notamment.
Vous faites des boulettes d'ailleurs. Boulettes de fromage au za'atar. Alors parce qu'on a aussi des recettes pour faire son propre fromage. Ces yaourts qu'on va ensuite agrémenter de confitures, de gel, de tout plein de produits, des arbres que vous avez pu confectionner. Donc il y a des recettes et traditionnelles et puis complètement nouvelles que vous avez inventées. Quel est votre souvenir gustatif d'arbres?
Alors pour moi, c'est la première fois que j'ai cuisiné les feuilles de figuier. Parce que j'adore les figues et j'adore, pour moi, l'été est associé à l'odeur sous les figuiers. Et la première fois que j'ai cuisiné des feuilles de figuier, j'ai fait un son en papillote avec des feuilles de figuier. Et j'ai retrouvé cette odeur de l'été, mais en goût. Et là, je me suis dit, là, je tiens quelque chose. Là, c'est la recette du bonheur. Voilà. Et depuis, j'agrémente les feuilles de figuier en vinaigre, en huile. Je les fais infuser. En fait, il y a une feuille de figuier en
papillote. Les chefs cuisiniers se sont emparés assez récemment, en réalité, de tout ce patrimoine gastronomique que nous offrent les arbres. Je pense à Marc Vera, 3 étoiles pour avoir mis du sapin dans ses assiettes. Jean Sulpice également à l'Auberge du Perbis. Guillaume Foucault qu'on a entendu depuis le début de cette émission. Nadia Samut. On commence, selon vous, en tout cas ici en Europe, à découvrir et à mettre dans l'assiette quelque chose qui pouvait s'apparenter à une certaine pauvreté ou une disette qui était de manger les arbres il y a encore 2 ou 3 siècles.
Oui, c'est vraiment étonnant parce que dans notre imaginaire populaire, l'arbre est associé à la famine en fait. Et pas seulement en Europe, hein. En Afrique c'est pareil. Quand je demande aux gens, mais vous ne mangez pas de ces fruits? Ils me disent, oh ben non, ça on mange quand on n'a rien d'autre à bouffer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en nous en fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des goûts très particulier qu'on ne retrouve que sur les arbres. On pense aux conifères notamment, à ces aiguilles pleines d'essence très aromatiques. Et on passe à côté de choses en fait en se privant de ces goûts. Et l'autre chose très intéressante, c'est qu'ils sont souvent disponibles toute l'année. Et donc ça, c'est intéressant aussi quand on est chef de pouvoir profiter d'un produit pendant une durée plus longue.
On peut vraiment faire goûter proprement son territoire, concrètement, dans son assiette.
On peut vraiment, je pense à la cuisine des montagnes, hein, et à Marc Vera, il y en a d'autres, on va vraiment composer une cuisine qui est unique en fait, qui est hyper locale.
Un mot sur la manière dont on peut planter un arbre, parce que toute l'émission aussi, on a rappelé la valeur et le respect de l'arbre. Comment est-ce qu'on plante un arbre?
Alors la première chose, c'est que c'est assez difficile de faire pousser pas mal d'arbres à partir de la graine. Donc ça peut prendre des années et c'est pour ça qu'en général, quand on veut planter des arbres, il vaut mieux acheter des petites et avoir de la patience plutôt qu'un grand arbre déjà établi dont les racines vont former des chignons dans les bacs dans lesquels ils auront été. Donc prendre jeune, faire un un grand trou. Il y a les saisons, hein, on va dire la Sainte-Catherine en Europe pour planter les feuillus et puis plutôt le début du printemps pour les conifères. Mais ce qui est important, c'est d'amener du bon terreau. Moi, je fais un mélange avec la bouse de vache ou du fumier, du terreau. On appelle ça le pralin. Alors, on est encore dans le vocabulaire culinaire, mais là, je goûterai pas, par contre. Et donc, oui, on va enrober les racines dans cette tourbe nourricière qu'on aura fabriquée. Et ensuite, on va donner beaucoup d'amour et de l'eau, surtout la première année.
Un ingrédient et un ustensile pour terminer, comme le veut la tradition du goût du monde.
Alors, dans l'ingrédient, on en a parlé un petit peu, je vais citer les aiguilles de pin, parce qu'elles peuvent vraiment changer complètement le goût d'un plat, avec leur petit goût citronné et ce goût forestier très unique. Et dans les ustensiles, en fait, je fais pas mal de brocantes, et j'achète à des prix absolument dérisoires des paniers en osier plat qui servaient avant à servir le fromage, avec deux petites poignées sur les côtés. Et ces petits paniers qu'on peut superposer et qui ne prennent pas beaucoup de place me servent à faire sécher mes produits d'arbres et mes plantes quand je vais en cueillette.
Merci beaucoup Aurélie Valta. La cuisine des arbres est publiée aux éditions Ulmer. Donc Aromatips voilà. Sur Instagram et votre blog donc aromatips.be. Les liens pour le conservatoire et pour le chemin de la nature seront sur la page web du Goût du Monde. Des trésors de connaissances partagées et d'échanges. J'aime penser qu'ici nous semons aussi des graines d'arbres. Donc nous verrons si vous avez joué le jeu, vous qui nous écoutez avec Aziz. Imaginez donc cette forêt que nous pourrons planter, ça doit être assez incroyable. Envoyez-nous donc la photo. Nous ferons un album sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp aussi pour nous envoyer la photo, 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci à France Bleu Occitanie qui a permis cette liaison entre Paris et Toulouse. Excellente semaine à tous.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Dominique Bayard.
Au moment de la grande migration estivale des vacances, nous mettons le cap sur l'Afrique pour voir comment l'industrie touristique a réagi face à la pandémie, comment elle s'est adaptée, comment elle entend se projeter pour rester l'activité florissante qu'elle était avant le coronavirus.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec Dominique Bayard, tout à l'heure à 17h10.